Gloire à Dieu.
Comme vous l'avez entendu ce matin, c'est un dimanche spécial où nous allons penser à l'Église persécutée. Alors on a été des privilégiés sur Colomiers puisque, et au mois de juin et à nouveau au mois d'octobre, on a pu avoir une intervention au mois de juin du correspondant sud de l'association Porte Ouverte. Et il y a peu, nous avions ici le pasteur Gidéon, dont on va reparler, qui a vécu lui-même la persécution en Érythrée. Donc ce matin, il y a des centaines, des milliers d'églises qui se réunissent sous ce thème de la persécution. Le thème qui a été donné par l'action évangélique de Pentecôte, je vous rappelle. Bon, l'association la plus connue, c'est Porte Ouverte, qui est interdénominationnelle. Mais nous avons au sein des Assemblées de Dieu une association qui s'appelle l'AEP, Action évangélique de Pentecôte, qui travaille en faveur de l'Église persécutée. On vous en parle. Si vous êtes là aux Assemblées générales, vous savez qu'il n'y aura pas d'offrande ce matin. Pourquoi il n'y aura pas d'offrande? Parce que déjà, sur votre offrande, à chaque fois que vous donnez votre offrande, il y a une partie de cette offrande qui va à l'AEP. Systématiquement, comme il y a une partie qui va à la mission, qui va à d'autres œuvres du mouvement. Donc nous aidons cette œuvre depuis des années, fidèlement, tout le temps. Si vous avez à cœur, vous verrez, il y a des choses qui s'inscrivent. Si vous voulez faire plus, vous me le dites. Il y a possibilité de faire des dons directement à l'association. À ce moment-là, il n'y a pas de souci. Le thème qu'ils nous ont donné pour cette journée, c'est « Unis ». Unis. Nous formons, l'Église forme un seul corps. Ce n'est pas seulement valable pour l'église de Colomiers. J'espère que nous formons un seul corps ici. Mais c'est ce qui est extraordinaire dans la famille de Dieu, c'est que ça va au-delà. L'église ne se limite pas aux personnes qui fréquentent ce lieu. Vous en êtes conscient, bien sûr. Et nous avons des frères et sœurs partout dans cette ville, dans cette agglomération, dans la métropole toulousaine, aussi dans tout ce pays, mais également dans le monde entier. Et nous sommes un seul corps. Et dans ce corps, eh bien, il y a des membres qui souffrent à cause de leur foi. Nous devons en être conscients. Et je pense que des journées comme celle-ci sont bien pour nous rappeler, parce que nous sommes tellement occupés dans notre esprit, nous avons tellement de choses à nous occuper, que, je parle pour moi, on a tendance à oublier nos frères et sœurs. Un seul corps. Un seul corps, la première chose qui nous est donnée dans les formulaires qui nous ont été envoyés, un seul corps pour s'identifier avec eux. Essayer de s'identifier avec eux. Ça veut dire refuser l'oubli, l'indifférence. Hein ? Un seul corps, l'identification, ça veut dire je forme un corps avec eux, un seul corps, et formant ce corps, bien, je me rappelle du texte qu'il y a dans l'épître de Paul aux Corinthiens, si un membre souffre, tous les membres souffrent. Amen. On est d'accord avec ça? Si un membre souffre, tous les membres souffrent. Donc c'est valable au niveau local. On est très affecté hein, quand quelqu'un au milieu de nous, on apprend qu'il est malade ou qu'il a des épreuves. Mais on doit l'être aussi pour ces inconnus, entre guillemets, frères et sœurs que nous ne connaissons pas, mais dont nous savons qu'ils vivent des choses très difficiles. La deuxième direction qui est donnée, c'est une compréhension de ce qui se passe. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis dans l'incompréhension, humainement parlant, en me disant, mais comment le Seigneur, comment il peut accepter ça? Pourquoi il n'intervient pas? Il n'a qu'un mot à dire. Et en fait, la Bible nous dit, Jésus a dit ceci, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. M'en demandez pas plus dans l'explication. Tout ça, ça nous dépasse. Mais Jésus l'a annoncé, c'est pas quelque chose qui doit nous étonner. Qu'on en souffre, c'est normal. On ne peut pas ne pas souffrir quand on apprend les choses horribles que peuvent vivre nos frères et sœurs. Mais nous comprenons que sur le chemin, pour certains, il y a cette confrontation à la persécution. Une troisième chose qui nous est donnée, troisième et dernière chose, c'est le fait que malgré la persécution, et même certains commentateurs disent, et justement parce qu'il y a la persécution, il y a une croissance de l'Église. Ça, c'est un mystère qui est là, qui fait que plus les gens essayent de persécuter les chrétiens, leur but, évidemment, c'est que les chrétiens disparaissent. Je vous rappelle que certains partis politiques en Inde avaient déclaré qu'il n'y aurait plus de chrétiens, qu'il ne fallait plus qu'il y ait de chrétiens à la fin 2021. Il y a toujours des chrétiens en Inde. Et je pense qu'il y en a plus que ce qu'il y en avait en 2021. En fait, plus le diable essaye d'attaquer l'Église, plus elle grandit. Ça aussi, je ne peux pas vous donner une explication rationnelle. Normalement, quand on dit si tu crois, celui qui croit en Dieu, on le tue, ben on devrait avoir moins de conversions. Ben c'est l'inverse qui se passe. C'est l'inverse qui se passe. Parce que Dieu est plus puissant que celui qui persécute l'Église, tout simplement. Amen. Dans le monde, il y a quatre types de persécutions. On va le voir à l'image suivante. Quatre types de persécutions. Si on suit les images, en partant de celles que vous avez en haut à droite, la première persécution, c'est la mort. Les croyants sont tués. Dans certains pays, des bus sont arrêtés, on fait descendre les gens et on leur dit « Est-ce que tu es chrétien ou est-ce que tu es musulman ?» Si tu es musulman, c'est bon, tu as la vie sauve. Si tu es chrétien, on te tue direct. Une balle et c'est fini. Des choses qui se passent. Des récits que nous trouvons justement dans les revues de Porte Ouverte, ces choses glaçantes. Donc il y a ça. Il y a, vous le voyez sur la photo suivante, la persécution psychologique sur le plan familial et sur le plan sociétal. Dans certains pays, à partir du moment où vous êtes chrétien, votre famille vous persécute ou la société vous persécute. Vous avez du mal à trouver du travail ou... quand vous êtes sur le lieu de travail, on vous discrimine. Pareil pour les enfants à l'école, etc. Donc des conditions difficiles, même s'il n'y a pas la menace de mort, il y a cette pression psychologique tout le temps. Après, la troisième image, c'est sans vous tuer, vous subissez des agressions physiques. Des chrétiens, on l'a vu avec Gidéon, on ne l'a pas tué, mais il a été frappé à mort, il a vécu des choses terribles. Et puis la dernière forme de persécution qu'il y a aujourd'hui, qui se répand de plus en plus, c'est la déportation. C'est-à-dire que de plus en plus de populations sont déportées à cause notamment en ce moment de l'extrémisme islamique qui se répand dans certains pays d'Afrique, l'Afrique subsaharienne. Et certaines poches, certains endroits du pays sont envahis petit à petit par ces extrémistes. Et donc les populations, les chrétiens, sont obligés de fuir. Ils arrivent dans les villages, ils disent soit... vous convertissez à l'islam, soit vous partez. Donc les chrétiens s'en vont. Et donc ils se retrouvent dans des camps de réfugiés, et là je ne vous raconte pas l'horreur. Entassés dans des tentes, sous la chaleur, avec des conditions sanitaires déplorables. Donc ceux qui ont le plus de chance ont des ONG qui viennent sur place, et parfois il y a des camps où il n'y a pas d'ONG, il n'y a quasiment rien. Donc ça aussi, c'est une nouvelle forme qui est en train de se dessiner de plus en plus. C'est des milliers, voire des millions de gens dans certains pays d'Afrique qui sont déportés comme ça, qui sont dans des camps. Voilà ce que vivent nos frères et sœurs. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous pouvez me citer des pays où la persécution est vraiment intense? Ça vous évoque quoi? Si on vous dit pays persécuté, vous pensez à quel pays? Corée du Nord, c'est la meilleure réponse à donner puisque c'est la première qui est sur l'indice de persécution. Corée du Nord, autre pays. Érythrée, quatrième rang, on va le voir. Afghanistan, bien sûr. Pakistan, Inde, exactement. Alors, dans tous ces pays, dans certains pays, c'est global au pays, et dans d'autres pays, c'est une certaine partie du pays seulement. Alors, on vient de parler de l'Inde, il y a des endroits en Inde où vous n'êtes pas persécuté. Par contre, vous allez dans certains États, et c'est très, très compliqué. Au Nigeria, c'est pareil. Nigeria, vous avez le sud du Nigeria où les chrétiens sont relativement tranquilles. Vous allez au nord, c'est l'horreur. C'est le pays, le Nigeria, où il y a le plus d'assassinats de chrétiens. On va regarder l'index, la carte. Vous l'avez, elle est affichée au fond. Hein, quand vous voulez la consulter, vous pouvez. Voilà la carte avec les pays. Donc, tous les pays en rouge. Moi, au début, que je recevais le magazine Porte Ouverte, il y avait 3-4 pays en rouge. Là, on est passé à 13. 13 pays. Donc, vous retrouvez la Corée du Nord en haut, là-bas. On a cité l'Érythrée qui se trouve ici. Hein, et on a la Libye ici en troisième position aussi. La Somalie en deuxième position. Le Yémen en cinquième position. On va voir la liste. C'est effroyable de voir tout ce... On appelle ça le rectangle. Hein, tout ce rectangle-là, où il y a des pays qui sont soit très fortement persécutés en rouge et fortement persécutés en orange. Donc on va voir la liste. Je ne vous ai pas mis tous les pays, mais les 13 pays les plus persécutés, les 13 pays en rouge, donc dans l'ordre, Corée du Nord, Somalie, Libye, Érythrée, Yémen, Nigeria, Pakistan, Soudan, Iran, Afghanistan, Inde, Syrie et Arabie Saoudite. Et après, je suis allé que jusqu'au 20e. Si on prend les autres pays les plus persécutés, le Mali, l'Algérie qui se retrouve en 15e position. Elle était dans les 40e positions il n'y a pas longtemps. Ça se durcit énormément. Vous voyez d'ailleurs que sur le côté, est-ce qu'il y a une augmentation par rapport à l'année d'avant? Donc vous voyez que tous ces pays ont une augmentation et l'Algérie, c'est en rouge. Ça veut dire que la persécution bat son plein là-bas. C'est très dur pour nos frères et sœurs là-bas. L'Irak, le Myanmar, c'est l'ancienne Birmanie, les Maldives, la Chine, et là aussi un pays dont il y a quelques années, on ne pouvait pas se douter qu'il y aurait des problèmes, le Burkina Faso. Et il y a, moi, j'ai des nouvelles du Burkina Faso parce que je connais, certains d'entre vous les ont vus, hein, Jean-Marc et Anne-Marie Bruel, qui, tout au début qu'on était là à Colomiers, nous faisaient des comptes rendus sur leur association. Ils ont une association caritative qui fait de l'alphabétisation au Burkina Faso. Pendant des années, ils ont travaillé sur tout le Burkina sans problème. Et là, il y a des régions où ils ne peuvent plus aller. C'est terminé. Il y a les extrémistes musulmans qui sont là. Et alors, eux, en plus, ils ne sont pas affichés comme chrétiens, comme association. C'est une association laïque. Mais eux, étant chrétiens et embauchant dans l'association plusieurs chrétiens, c'est même pas la peine qu'ils essayent d'y aller. Donc c'est très compliqué, vous le voyez. Hein, on doit vraiment être conscient de ces choses. Quand on fait une synthèse de tout ça, regardez les statistiques, ça aussi, ça m'a bouleversé quand j'ai vu cela. Donc je vais les lire avec vous parce que c'est un peu petit. Donc en haut, vous avez écrit qu'il y a plus de 365 millions de chrétiens fortement persécutés. Ouais, ça fait 6 fois la France. 6 fois un pays comme la France de chrétiens qui sont persécutés. C'est énorme. Ils se répartissent dans 78 pays. C'est un chrétien sur 7 dans le monde. Vous voyez qu'on est 150 là. Ça voudrait dire qu'il y a à peu près 20 personnes parmi nous qui sont persécutées. Ensuite, 4 000, bon, quasiment 5 000 chrétiens ont été tués en 2024. Oh, non, ça c'est les chiffres de 2023. En 2023, 4 998 chrétiens tués et le chiffre qui me touche, c'est 13 par jour. Chaque fois qu'on passe une journée, il y a 13 chrétiens qui meurent à cause de leur foi. 14 766 églises ciblées, c'est un nombre record, c'est signalé. 4 125 chrétiens détenus, dont plus de la moitié sont en Inde. 3 906 chrétiens qui ont été kidnappés, 3 300 au Nigeria. Malheureusement, le Nigeria, vous le savez, est réputé pour cela. Hein, les islamistes viennent dans les villages et ils repartent en emmenant notamment les jeunes filles, le plus souvent, mais aussi les jeunes garçons. Et ils tuent certaines personnes au passage. C'est effroyable ce qui se passe dans ces pays. J'aimerais vous amener dans la parole de Dieu. Actes chapitre 1, verset 8. Je vais reprendre avec vous quelque chose que j'ai médité avec les Lillois vendredi soir, et puis on va aller plus loin. Il y a un texte qu'on connaît tous. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes appelés à être des témoins. Ces frères et sœurs, malgré le fait qu'ils risquent leur vie, ils témoignent de leur foi. Vous vous rendez compte? Nous, on a toute liberté pour le faire. Et la question que je pose, c'est est-ce qu'on le fait? Ceux qui risquent leur vie, c'est la même chose pour les réunions d'église. Hein. Il y a des gens qui me disent « Oh, l'église, oh, bah, si je ne viens pas, ce n'est pas grave, pasteur. Je viens... » Les chrétiens là-bas, s'ils se réunissent, ils ont peur alors qu'ils sont... Ouais, nous, on est réunis tranquilles, mais eux, ils sont réunis et ils s'attendent à ce que quelqu'un puisse rentrer avec une bombe ou une mitraillette ou la police vienne arrêter des gens. C'est ça leur lot à tous les cultes. Et ils sont tous là. Et ils sont tous là. Moi, à chaque fois, ça me bouleverse. Et ça doit nous interpeller, ça doit nous parler à nous. Parce que s'ils le font au péril de leur vie, c'est qu'ils ont compris la nécessité de la communion fraternelle. Ils ont vraiment compris la nécessité de la communion fraternelle. Nous qui avons tout, nous n'en éprouvons pas le besoin, malheureusement. J'aimerais m'arrêter sur le terme « témoin ». Parce que justement, il nous parle des chrétiens persécutés. Le terme témoin, quand on le lit comme ça, on dit, ben voilà, les disciples étaient appelés au témoignage. Mais quand on regarde le terme en grec, dans le Nouveau Testament, il y a trois termes grecs qui sont traduits pour le mot témoin. Le premier, c'est martyréo. Être témoin, déclarer des choses, le dire expressément. Donc ça, c'est celui qui parle avec sa bouche et qui témoigne. Un deuxième terme, c'est marturia. C'est celui qui témoigne devant la justice, les témoins qu'on appelle devant les juges. Et puis le troisième terme, c'est martus. C'est celui qui est témoin d'une chose, et il est ajouté, qui est capable de supporter une mort violente. Et c'est ce terme qui est utilisé, c'est martus qui est utilisé dans Actes 1-8. Vous êtes appelés à être des, pas juste des témoins, des martus. Le mot martus, c'est celui qui est à l'origine du mot martyr. Allez chercher dans un dictionnaire d'étymologie, martyr, et vous verrez que l'origine, c'est le mot martus. Martus qui signifie capable de supporter une mort violente. À l'origine même, ce mot, martyr, désignait quelqu'un qui a souffert pour sa foi chrétienne. C'était précis, ça concernait les chrétiens. Aujourd'hui, on peut dire que quelqu'un est mort en martyr pour plein de raisons, pas seulement pour la foi chrétienne. Mais au départ, c'était vraiment ciblé sur les chrétiens. La puissance du Saint-Esprit, on l'invoque et on dit, si tu es rempli du Saint-Esprit, le Seigneur va remplir ta bouche, il va te donner la capacité de parler aux autres, d'avoir de l'assurance. Et c'est vrai, on a raison de le dire. C'est tout à fait vrai. Mais on oublie que ça nous donne aussi la capacité de continuer de le faire même si on est persécuté. Ça nous donne la capacité de le faire même si on le fait au risque de perdre notre vie. Et je pense que cette dimension-là, il faut qu'on l'ait à l'esprit. Et moi, quand j'étudie ça, je me dis, mais voilà pourquoi nos frères et sœurs, ils y arrivent en fait. Parce que nous, vous êtes tous posé la question, comme moi. Si un jour il y a la persécution en France, est-ce que je serais capable de ne pas renier ma foi si on me dit je vais te torturer là maintenant? Qui peut lever la main et dire moi je n'aurais pas peur? On le saura quand on sera dans la situation. Mais moi je suis confiant. Si j'ai le Saint-Esprit, je serai capable. Parce que le Saint-Esprit est une puissance qui me donne la capacité d'être un martyr. Martus. Amen. On a eu ici même le pasteur Gidéon, qui vient d'Érythrée. Je vais juste lire un texte avec vous dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 3 à 11. Parce que ce texte de 1, Actes chapitre 1, 8, il est prophétique. Vous ne croyez pas que Jésus savait déjà, quand il a dit « Vous serez mes témoins », qu'ils allaient souffrir à cause de leur foi ? Est-ce que ça n'a pas été le cas des premiers chrétiens ? Ben oui. Et c'est pour ça qu'il y a cette connotation dans le terme « témoin » quand Jésus s'adresse à ses disciples. Il les avertit, il leur dit « Attention, ça va être dur pour vous d'être chrétien, mais vous allez recevoir une puissance. » Amen. Vous allez recevoir une puissance. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardez ce que dit Paul. Est-ce que Paul a souffert la persécution ? Légèrement, hein, un petit peu. On va voir ça. Regardez ce que dit Paul. « Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience. » Et regardez la liste. Dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, c'est ce qu'a vécu notre frère Gidéon, sous les coups, dans les prisons, c'est ce qu'il a vécu. Il nous a parlé d'une prison où il pouvait, une cellule où il pouvait juste se mettre en position allongée pour dormir. Il n'avait pas plus de place que ça. Et il y est resté des jours et des jours sans lumière. Dans les troubles, dans les travaux, dans l'éveil, dans les jeûnes, là aussi il nous a parlé de ça, des moments où il a été privé de nourriture, où il n'avait pratiquement rien à manger. Et à tout cela, la réponse, c'est la pureté, la connaissance, la longanimité, ça veut dire l'endurance justement à l'épreuve, à la persécution, la bonté, un esprit saint, une charité sincère, la parole de vérité, la puissance de Dieu, amen, on retrouve, les armes offensives et défensives de la justice. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, ça aussi Gédéon il l'a vécu, comme châtié, quoique, Gidéon, pardon, quoique nous mis, pardon, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvre, et nous en enrichissons plusieurs. C'est extraordinaire, ces deux dernières remarques. Attristé, mais toujours joyeux. Pauvre, et on est une richesse pour les autres. Amen. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses, notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Amen. Amen. On retrouve ce que dit Jésus, hein. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est parce que Paul et ceux qui travaillaient avec lui avaient un cœur pour cette ville de Corinthe qui n'ont pas eu peur d'aller face à la persécution et ils ont ouvert leur bouche. Amen. Lorsque la question a été posée à Gidéon, comment il a fait pour tenir ? Ce qu'il nous a raconté en détail, tout ce qu'il a vécu, je peux vous dire que c'était difficilement supportable à écouter. La question lui a été posée, comment est-ce que vous avez pu tenir ? Comment vous avez pu endurer ça ? Et sa réponse a été, ce qui m'a donné la force d'endurer tout cela, c'est la présence de Dieu par le Saint-Esprit. Il a expliqué qu'on pouvait tout lui enlever, mais quand il était dans sa cellule, la présence de Dieu, elle était là. La présence de Dieu était là et Dieu lui donnait la force. C'est extraordinaire. Cette puissance, Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance et vous serez mes martyrs. Et voilà l'explication, comment Gidéon a tenu, rempli du Saint-Esprit. Vous vous souvenez les dernières prédications sur le thème « Au plus près de Dieu » ? Bien, je crois que la persécution peut nous amener au plus près de Dieu. Et que les chrétiens persécutés vivent des choses que nous ne vivons pas. Parce que leur souffrance les amène au plus près de Dieu. L'épreuve en général, je dis bien peut nous amener, j'ai écrit peut nous amener. Parce que certains vont se rebeller dans la souffrance. Certains vont perdre la foi. Mais ceux qui s'approchent de Dieu, ils sont remplis de cette puissance. Amen. On a l'exemple d'Étienne, vous connaissez Étienne ? Premier martyr chrétien connu. Il y a certainement eu d'autres avant lui, mais celui dont il est parlé avec précision, Étienne qui a été lapidé. Et on lit ceci dans Actes chapitre 7, versets 54-56, quand il est en train de se défendre devant le tribunal qui l'accuse. Et en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, ils grinçaient des dents contre lui. Et alors que la menace pèse sur lui, alors qu'il se dit « Waouh, ça va mal se finir pour moi », regardez ce qui se passe. Étienne, petite précision, rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça, mes frères et sœurs, qu'on doit veiller à être remplis. Ceux qui ne seront pas remplis du Saint-Esprit ne tiendront pas dans la persécution. C'est au-dessus de nos forces. Mais si on est rempli du Saint-Esprit, Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on sait où regarder quand il y a un problème. On regarde au bon endroit. Regardez la grâce que Dieu lui fait. Étienne vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Amen. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors là, il a fini de les énerver. Et donc, ils ont pris des pierres, ils ont commencé à le lapider. Et alors qu'on lit un peu plus loin, alors qu'ils étaient en train de lapider Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Il s'endormit. Intéressant, hein ? Moi, je suis convaincu que Dieu a apaisé les souffrances d'Étienne. Et que la force des pierres contre son corps ne devait pas avoir l'effet qu'il aurait dû avoir. Mais le Saint-Esprit en lui a donné la force même de prier pour que ses persécuteurs soient pardonnés. Waouh ! Mais ça, c'est une des qualités du martyr. Lisez les nouvelles des pays persécutés, et moi je suis à chaque fois bouleversé de voir les témoignages, notamment de femmes, parce que souvent c'est les femmes qui restent. Les maris sont mis en prison ou les maris sont assassinés parfois sauvagement sous les yeux de leurs femmes. Et malgré cela, les femmes prient pour la conversion de ceux qui ont fait ces choses. C'est naturel ça ? C'est surnaturel. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cette puissance. Amen. Qui peut prier pour son persécuteur ? Celui qui est rempli du Saint-Esprit. Amen. Jésus l'a fait. Jésus à la croix a prié pour ceux qui le crucifiaient. Et justement, on va terminer en parlant de Jésus. Et on lit dans Matthieu 26, 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Au milieu de la menace, de la persécution extrême, Jésus a un désavantage, entre guillemets, par rapport à nous, c'est qu'il sait déjà ce qui va se passer. Et concernant la croix, il savait déjà ce qu'il allait souffrir avant même que ça se passe. Je ne sais pas si vous imaginez. Quand vous savez que vous allez avoir quelque chose, mais vous ne savez pas trop comment ça va être, c'est déjà angoissant. Mais quand vous savez exactement ce que vous allez souffrir et que vous savez que c'est en train d'arriver, on peut comprendre pourquoi des grumeaux de sang coulaient sur ses tempes. Jésus, la persécution, l'a amené à s'approcher du Père, à venir au plus près de Dieu. La persécution, l'épreuve, mon frère, ma sœur, si tu réagis spirituellement, elle va t'amener auprès de Dieu. Elle va t'amener auprès de Dieu. Et c'est ainsi que les plans du diable sont déjoués. Parce qu'il veut t'éloigner de Dieu, et c'est l'inverse qui se passe. Et tu t'approches de Dieu. Amen. Jésus, à Gethsémané, est venu s'approcher de son Père. Jésus est venu s'approcher de son Père. Alléluia. Et nous voyons la différence, hein. les disciples, n'étant pas conscients de ce qui allait se passer, ils ne se sont pas approchés du Père. Ils ont dormi. Combien de fois nous dormons au lieu de nous approcher du Père? Et quand l'épreuve arrive, eh ben, on voit la différence entre celui qui est près du Père et ceux qui sont loin du Père. Les disciples, ils ont abandonné Jésus. Il y en a un qui l'a trahi, il y en a un qui l'a renié, les autres se sont enfuis. Mais Jésus, lui, il a fait face. Il a fait face avec une dignité incroyable au point qu'un des deux brigands, en le voyant, va se convertir. Tellement il a été bouleversé de voir l'attitude de Jésus rempli du Saint-Esprit face à l'horreur. Je veux conclure en revenant sur le terme « unis ». Unis ensemble, oui, mais unis avec Jésus et avec Dieu d'abord. Dans Jean chapitre 17, Jésus, alors que justement il est face à la croix qui va arriver, cette douleur qu'il va subir, il va passer un long temps à prier pour ses disciples. C'est le chapitre 17 de l'évangile de Jean. Je ne vais pas vous lire toute la prière, mais je vais vous lire juste un extrait. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Donc Jésus parle avec son Père. Il dit qu'il est un avec le Père. « Que nous soyons un comme Jésus est un avec le Père. » Ouh ! Ah, ça veut dire qu'on a des progrès à faire dans l'unité encore. Non, vous ne croyez pas? Et puis, il dit « moi en eux ». Donc, ça veut dire Jésus veut être uni avec nous. Il veut être uni avec nous. Il veut que cette unité entre lui et nous, comme il y a « et toi en moi », afin qu'il soit parfaitement un. Et si on est parfaitement un avec Christ, qu'on sera parfaitement un les uns avec les autres. C'est comme ça que ça marche. Quand il n'y a pas d'unité entre nous, posons-nous la question, est-ce que nous sommes un avec Christ? Et pas est-ce que l'autre, il est un avec Christ? Ça, c'est notre réflexe, hein, il y a un problème. Ça vient de là-bas. Non, il y a un problème, est-ce que je suis un avec Christ? Parce que si je suis un avec Christ, je vais être uni avec mes frères et sœurs. Amen. Si je suis un avec Christ, je suis uni avec mes frères. La Sainte Cène que nous prenons, elle a cette symbolique. C'est dans la croix, il y a deux dimensions, hein, verticale, horizontale. Et la Sainte Cène, c'est nous rappeler que grâce au sang de Jésus, nous pouvons être un avec le Père, dans l'unité avec le Père. Et si nous sommes dans l'unité avec le Père, nous sommes dans l'unité avec les frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, dans cette unité, il y a les chrétiens persécutés auxquels nous voulons penser. On va prier. J'aimerais qu'on ait un temps de prière, qu'on prenne le temps de prier pour nos frères et sœurs persécutés. Vous êtes d'accord? On l'a fait déjà mardi, le mardi 29 octobre, mais on peut le refaire aujourd'hui, peut-être s'unir justement, penser qu'on est des milliers à le faire ce matin, des milliers, peut-être plus que des milliers, des centaines de milliers, c'est sûr, peut-être des millions de chrétiens qui prient. Et j'aimerais qu'on puisse prendre conscience de la force que ça va donner à nos frères et sœurs. Si vous croyez à la puissance de la prière, alors élevez vos voix maintenant, pour que nos frères et sœurs puissent ressentir que ça vient du monde entier et que ça les tient, ça les soutient, ça les aide. Amen. Seigneur, oui, merci. Nous élevons nos voix tous ensemble. Seigneur, nous venons devant toi. Et oui, Seigneur, en lisant ces chiffres, en regardant ces images, nous souffrons, Seigneur. Nous souffrons de voir ce qui est fait à nos frères et sœurs. Seigneur, mon Dieu, nous voulons prier pour eux. Merci parce que tu leur as donné le Saint-Esprit. Merci parce qu'il y a une puissance en eux qui fait d'eux des martyrs. Seigneur, oh, donne-leur le courage, donne-leur la force. renouvelle celui qui est découragé, guéris ceux qui ont été touchés au point d'être traumatisés par des choses terribles. Seigneur, viens apporter la guérison, viens apporter la restauration. Nous savons que toi, tu fais ces choses. Seigneur, oui, enlève tout sentiment de haine, tout sentiment d'amertume, de rancune. Et donne-leur de, oui, de se défendre avec les armes offensives et défensives de la justice. Seigneur, remplis-les de toi, remplis-les de ton esprit. Merci, merci parce qu'ils peuvent enrichir ceux qui les entourent. Ils peuvent enrichir même leurs bourreaux. Seigneur, merci de les fortifier au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions pour nos frères et sœurs. Seigneur, viens les secourir, viens bénir ces pays où il y a la persécution, viens toucher le cœur des dirigeants, viens de faire toucher le cœur des groupes extrémistes qui sèment le chaos. Seigneur, nous prions, Seigneur, toi qui as convaincu Nebuchadnezzar des grands de ce monde, Seigneur, fais-le encore aujourd'hui, s'il te plaît, en faveur de nos frères et sœurs. Merci pour tous ces témoignages, comme celui de Gidéon, où il y a des frères et sœurs, même si certains, oui, c'est vrai, malheureusement, 13 par jour meurent, mais nous savons qu'il devrait y en avoir beaucoup plus. Et toi, tu sauves de la mort plusieurs d'entre eux, d'une manière miraculeuse, et nous te louons pour cela. Oh, et merci aussi parce que tu recueilles ces frères et sœurs dans ton ciel de gloire, lorsqu'ils sont tués. Seigneur, merci, rien ne peut nous atteindre. Même la mort pour nous est un gain. Seigneur, le diable ne peut rien faire. Il est impuissant parce que tu as tout accompli à la croix. Tu nous as sauvés, tu nous as ouvert les portes du ciel. Sois béni, Seigneur. Viens renouveler cette espérance dans le cœur de nos frères et sœurs. Au nom de Jésus, amen.